Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères.
Radio U, textuel, lire pour vivre mille vies.
J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses.
Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront.
Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la
J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un.
Au chapeau de feutre.
Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme et tu es féministe depuis l'adolescence.
Accoudée au bastingage.
La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi aujourd'hui, je suis réjouie. Et je rigole même de jeux de mots, comment dire, des jeux de mots du quotidien. Vous savez, ceux qu'on échange à table entre le fromage et le dessert, même pas ivres, et qui ne sont pas bien glorieux. Mais ils sont faits par des gens qu'on aime bien. Alors on sourit, et même on rit. Et on rit surtout de rire de ça. C'est un peu pitoyable, mais plein de tendresse. C'est un peu le cas du texte que je vais vous lire. C'est un livre écrit par un homme, personne n'est parfait. Vous le verrez, vous l'entendrez très vite, quand l'expression « battre sa femme » est censée être une expression humoristique et une action ordinaire. On me dira que ce sont les mœurs du Moyen-Âge qui sont évoquées là, mais comprendre qu'à cette époque, c'était chose normale ne me console pas. Bon, j'avais envie de rigoler, alors je quitte ce centro-féminisme, et oui, je viens de découvrir une nouvelle expression, et je vous lis le début du célèbre roman « Les fleurs bleues » du célèbre auteur Raymond Queneau avec tendresse et indulgence avant que ça devienne illisible. Le 25 septembre 1264, au petit jour, le duc d'Auge se pointa sur le sommet du donjon de son château pour y considérer un tantinet soit peu la situation historique. Elle était plutôt floue. Des restes du passé traînaient encore, çà et là, en vrac. Sur les bords du rue voisin campaient deux uns. Non loin d'eux, un Gaulois et du un, peut-être, trempait audacieusement ses pieds dans l'eau courante et fraîche. Sur l'horizon se dessinaient les silhouettes molles de Romains fatigués, de Sarrasins de Corinthe, de Francs anciens, d'Alain seul. Quelques Normands buvaient du calva. Le duc d'Auge soupira, mais n'en continua pas moins d'examiner attentivement ces phénomènes usés. Les uns préparaient des steaks tartares, le Gaulois fumait une gitane, les Romains dessinaient des Grecs, les Sarrasins fauchaient de l'avoine, les Francs cherchaient des sols et les Alains regardaient 5 aux 7. Les Normands buvaient du calva. « Tant d'histoires, dit le duc d'Auge au duc d'Auge. » Tant d'histoires pour quelques calembours, pour quelques anachronismes, je trouve ça misérable. On n'en sortira donc jamais. Fasciné, il ne cessa pendant quelques heures de surveiller ses déchets, se refusant à l'émiettage. Puis, sans cause extérieure décelable, il quitta son poste de guet pour les étages inférieurs du château en se livrant au passage à son humeur, qui était de battre. Il ne battit point sa femme parce que défunte, mais il battit ses filles au nombre de 3, il battit des serviteurs, des servantes, des tapis, quelques fers encore chauds, la campagne, monnaie et en fin de compte ses flancs. Tout de suite après, il décida de faire un court voyage et de se rendre dans la ville capitale, en petit arroi, accompagné seulement de son page Mouscaillot. Parmi ses palefrois, il choisit son percheron favori nommé Démosthène parce qu'il parlait, même avec le mort entre les dents. « Ah, mon brave Démo, dit le duc d'Auge d'une voix plaintive, me voici bien triste et bien mélancolieux. » « Toujours l'histoire ? Demanda Sten. « Elle flétrit en moi tout ébaudissement, répondit le duc. « Courage, messire, courage, mettez-vous donc en selle que nous allions promener. C'était bien là mon intention, et même plus encore. Quoi donc ? Partir pendant quelques jours. Voilà qui me réjouit fort. Où, messire, voulez-vous que je vous emmène ? Loin, loin, ici la boue est faite de nos fleurs. Bleu, je le sais. Mais encore. Choisis. » Le duc d'Auge monta sur le dos de Sten, qui fit la proposition suivante. « Que diriez-vous d'aller voir où en sont les travaux à l'église Notre-Dame ?»« Comment ? S'écria le duc, ils ne sont pas encore terminés. C'est ce dont nous nous rendrons compte. Si on traîne tellement, on finira par bâtir une mahomerie. » Pourquoi pas un boudoir, un Confucius sonal, un Sanct Lao Tsuer ? Il ne faut pas broyer du noir comme ça, messire. En route, et par la même occasion, nous présenterons notre feu d'allommage au saint roi Louis IXe du nom. Sans attendre la réponse de son maître, Sten se mit à trotter vers le pont-levis qui s'abaissa fonctionnellement. Mouscaillot, qui ne proférait mot de peur de recevoir un coup de gantelé dans les gencives, suivait, monté sur Stéphane, ainsi nommé parce qu'il était peu causant. Comme le duc remâchait son amertume et que Mouscaillot, suivant sa prudente politique, persévérait dans le silence, seul Sten continuait à bavarder gaiement et il lançait des gabances réjouissantes à ceux qui le regardaient passer, les Celtes d'un air gallican, les Romains d'un air césarien, les Sarrasins d'un air agricole, les Huns d'un air unique, les Alains d'un air narte et les Francs d'un air sournois. Les Normands buvaient du calva. Tout en saluant très bas leur bien-armé suzerain, les manants grommelaient des menaces redoutables, mais qu'ils savaient inefficaces, aussi ne dépassaient-elles pas les limites de leurs moustaches s'ils en portaient. Sur la grande route, Sten allait bon train et finit par se taire. Ne trouvant plus d'interlocuteur, la circulation étant nulle, il ne voulait importuner son cavalier qu'il sentait somnoler. Comme Steph et Mouscaillot partageaient cette réserve, le duc d'Auge finit par s'endormir. Il habitait une péniche amarrée à demeure près d'une grande ville et il s'appelait Sidrolin. On lui servait à manger de la langouste pas trop fraîche avec une mayonnaise glauque. Tout en décortiquant les pattes de la bête avec un casse-noisette, Sidrolin dit à Sidrolin « Pas fameux tout ça, pas fameux, l'Amélie ne saura jamais faire la cuisine. » Il ajouta, s'adressant toujours à lui-même. « Mais où donc allais-je ainsi monter sur un cheval ? Je ne m'en souviens plus. D'ailleurs, c'est bien ça les rêves. Jamais de ma vie je ne suis monté à cheval. Jamais de ma vie non plus je ne suis monté à bicyclette. Et jamais en rêve je ne monte à bicyclette. Et pourtant, je monte à cheval. Il doit y avoir une explication, c'est sûr. Décidément, cette langouste n'est pas fameuse et cette mayonnaise encore moins. Et si j'apprenais à monter à cheval ? Au bois, par exemple, ou à bicyclette ? Et tu n'aurais pas besoin de permis de conduire, lui fit-on remarquer. Passons, passons. On apporte ensuite le fromage, du plâtre, un fruit, des vers s'y logeaient. Sidrolin s'essuie la goule et murmure. Encore un de foutu. Ce n'est pas ça qui t'empêchera de faire ta sieste, lui dit-on. Il ne répond pas. Sa chaise longue l'attend sur le pont. Il se couvre le visage d'un mouchoir et le voilà bientôt en vue des murailles de la ville capitale sans se préoccuper du nombre des étapes. « Chouette ! S'écria Sten, nous y sommes !» Le duc d'Auge s'éveillait avec l'impression d'avoir fait un mauvais repas. C'est alors que Steph, qui n'avait rien dit depuis le départ, éprouva le besoin de prendre la parole en ces termes. Alm et Inclite cité. Silence, dit Sten. Si l'on nous entendait parler, notre bon maître serait accusé de sorcellerie. Brrr, fit le duc. Et son page Itou. Brrr, fit Mousescaillou. Et pour montrer de quelle façon il convenait de s'exprimer pour un cheval, Sten hennit. Le duc d'Augin descendit à la sirène torte qu'un trouvère de passage lui avait un jour recommandé. Nom, prénom, qualité, demanda Martin l'hébergeur. Duc d'Auge, répondit le duc d'Auge, Joachim me prénomme et suis accompagné de mon dévoué page Mousescaillou, fils du comte d'Empoigne. Mon cheval a pour nom Sten et l'autre a pour nom Steph. Domicile, l'Arche, près du pont. Tout cela me semble fort catholique, dit Martin. Je l'espère bien, dit le duc, car tu commences à m'embrunner avec tes méchantes questions. Que messire me pardonne cet ordre du roi. Tu ne vas pas encore me demander ce que je viens faire dans la ville capitale. Nul besoin, messire vient pour voir nos putains qui sont les plus belles de toute la chrétienté. Notre saint roi les hait fort, mais elles participent avec ardeur aux finances de la prochaine croisade. Moult te gour, hébergeur, je viens voir où en sont les travaux de l'église Notre-Dame. La tour au sud est bien avancée, l'on va commencer celle au nord et la galerie qui les joint. On refait aussi les parties hautes pour donner plus de lumière. Assez, hurla le duc. Si tu me racontes tout, je n'aurai plus qu'à m'en retourner chez moi, ce que point ne souhaite. Ni moi non plus, aussi vous apporterai-je incontinent le souper. Le duc mangea copieusement, puis il alla se coucher et dormit de fort bon appétit. Il n'avait pas encore terminé sa sieste que deux nomades le réveillèrent en l'interpellant du haut de la berge. Sidrolin leur répondit par signe, mais sans doute les autres n'entendaient-ils pas ce langage, car ils descendirent le talus jusqu'à la planche passerelle et montèrent sur la péniche. Il y avait un campeur mâle et un campeur femelle. « Excuse us, dit le campeur mâle, ma vie sin lost. » « Bon début, répliqua Sidrolin. Capito egarirt lost. » Triste sort. « Campigne, lontano, us smariti. » « Il cause bien, murmura Sidrolin, mais parle-t-il l'européen vernaculaire ou le néo-babélien ?»« Ah ah !» fit l'autre avec les signes manifestes d'une vive satisfaction. « Vous faire jeter l'européen ?»« Un poco, » répondit Sidrolin. « Mais posez là votre barda, nobles étrangers, et prenez donc un glace avant de repartir. »« Ah, capito, glace !» Radieux, le noble étranger posa donc son barda, puis dédaignant les meubles destinés à cet usage, il s'accroupit sur le plancher en croisant ses jambes sous lui avec souplesse. La demoiselle qui l'accompagnait fit de même. « Serait-il japonais ? » se demanda Sidrolin à mi-voix. « Ils ont pourtant le cheveu blond. Des Aino, peut-être. » Et s'adressant au garçon, « Ne seriez-vous pas Aino ?»« Aino ? » « Moi, petit ami de tout au monde. »« Je vois, pacifiste. »« Y'a vol. Et ce glace ?»« Père Palnor l'Européen. » Sidrolin tapa dans ses mains et appela. « L'Amélie, l'Amélie !» On apparut. « L'Amélie, à boire pour ces nobles étrangers. »« Quoi ?»« De l'essence de fenouil, par exemple, avec de l'eau plate. » On s'éclipsa. Sidrolin se pencha vers les nomades. « Alors, mes petits oisillons, vous voilà égarirte ?»« Paumée, » dit la fille, « complètement paumée. »« Seriez-vous française, mamie ?»« Pas encore, canadienne. »« Et ce glace ?» demanda la croupie. « Schnell qu'on trinque ?»« Il est un peu casse-pied, » dit Sidrolin. « Oh, ce n'est pas le mauvais garçon. »« Et naturellement, vous allez comme ça tous les deux au camp de campagne pour les campeurs. »« Nous le cherchons. » « Vous êtes quasiment arrivé. C'est le long du fleuve, à moins de 500 mètres d'ici, en amont. »« Vicinda arrivati !» s'écria le garçon en se remettant sur pied d'un seul mouvement. « 300 yards, andiamo !» Il remit son barda sur le dos, un barda qui devait bien faire la tonne. « On attend l'essence de fenouil, » dit la fille sans bouger. « Well, well. Il redescendit sa tonne de paquetage et se rassit avec le même naturel que si le plancher avait été un lotus. Cydrolin sourit à la fille et lui dit d'un air complimentaire. C'est dressé. Dressé, comprenons pas. Eh bien oui, il obéit au doigt et à l'œil. Elle haussa les épaules. Vous êtes un feignant de la méninge, dit-elle. Il reste parce qu'il est libre, pas parce qu'il est dressé. S'il était dressé, il irait tout de suite au camp de camping pour les campeurs. Il reste parce qu'il est libre. Il y en a de l'idée dans une petite tête comme ça, murmura Cydrolin en regardant plus attentivement la Canadienne et notamment le blond duvet de ses cuisses et la semelle de ses souliers. Eh oui, de l'idée. Là-dessus, on apporta l'essence de fenouil et l'eau plate. Ils burent. Et comment nomadez-vous ? Demanda Cydrolin, à pied, à cheval, en voiture, en hélico, en vélo, en auto ? En stop, répondit la fille. En autostop ? Bien sûr, en autostop. Moi, je voyage parfois en auto-taxi. C'est moins économique. L'argent, on s'en fout. D'accord, et mon essence de fenouil ? Pas mauvais, je préférons l'eau pure. Ici, elle n'est jamais pure. Le fleuve, c'est l'égout et le robinet, le chlore. Vous ne voulez pas qu'il vous chante quelque chose ? Pourquoi faire ? Pour vous remercier. De l'essence de fenouil ? De l'accueil. Ah, c'est gentil, merci. La fille se tourna vers le garçon et lui dit « Chante ». Il fouilla dans son équipement et en retira un banjo de taille minime, dont aussitôt il gratta les cordes. Après quelques accords préliminaires, il ouvrit la bouche et ils entendirent ces mots. « J'aime Paimpol et sa falaise, son clocher et son vieux pardon. »« Où a-t-il appris ça ?» demanda Cydrolin lorsque ce fut fini et qu'il remerciait le virtuose. « À Paimpol, bien sûr, » répondit la Canadienne. « Suis-je bête ?» dit Cydrolin en se tapant le front. « Je n'y avais pas pensé. » Le mini-banjo réintégra le rucksack. Le garçon reprit de nouveau la position debout et il tendit la main à Cydrolin. « Sanxin, » dit-il, « et arrivederci. » Et à la fille, « Schnell, on y va-t-y, Oder, on y va-t-y pas ?» La fille se lève avec grâce et se harnache illico. « C'est dressé, » dit Cydrolin à mi-voix. Le nomade protesta. « Nein, nein, pas tressé, libre. Zi is libre. Anda to the campus, because. Zi is libre d'entare to the campus. » « Je sais, je sais. »« Adieu, » dit la fille en tendant à son tour la main à Cydrolin. « Merci encore et on reviendra peut-être vous voir si on a le temps. »« C'est ça, » dit Cydrolin. Il les regarda grimper le talus avec tout leur bagage. « C'est un métier de costaud, » murmura-t-il. « Ils vont revenir ? » demanda l'Amélie. « Je ne crois pas, non. Ils ne reviendront jamais. Qu'est-ce que j'en aurais fait ? Ils sont à peine partis que c'est tout juste si je me souviens d'eux. Ils existent, pourtant, ils méritent sans doute d'exister. Ils ne reviendront jamais s'égarer dans le labyrinthe de ma mémoire. C'était un accident sans importance. Il y a des rêves qui se déroulent comme des incidents sans importance. De la vie éveillée, on ne retiendrait pas des choses comme ça. Et cependant, ils intéressent lorsqu'on les saisit au matin se poussant en désordre contre la porte des paupières. Peut-être ai-je rêvé. L'Amélie n'avait pas à lui dire oui ou non. D'ailleurs, elle n'avait pas attendu la fin de ce discours. Cydrolin consulta l'horloge dans le carré et constata, non sans satisfaction, que l'épisode des nomades n'avait été qu'un intermède assez bref dans le temps qu'il accordait à sa sieste et que celle-ci pouvait être reprise décemment pendant encore quelques minutes. Il s'étendit donc sur sa chaise longue et réussit à s'endormir de nouveau. Je vous ai lu le début du roman de Raymond Queneau, Les Fleurs Bleues, paru chez Gallimard en 1965.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.